Europe 1. Écoutez le monde changer. 15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 15h à 16h. Malgré le confinement, depuis plus de 15 jours maintenant, nous nous mobilisons au cœur de cette crise sanitaire sans précédent en France. Notre mission à nous, c'est de continuer à vous informer, de répondre à toutes les questions médicales que vous vous posez sur cette épidémie. Et pour ce faire, il est tous les jours à mes côtés, il sort de consultation et puis est avec nous hein, tous les jours en studio, enfin de chez lui, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Je croyais que vous alliez me faire une blague, on est le 1er avril et que vous n'alliez pas répondre. Non, ça va, vous êtes là.
Non, mais je réserve autre chose pour un peu plus tard, mais voilà, je vous laisse la surprise.
Ah, génial, ben on a hâte, merci.
Je sais que vous n'aimez pas les surprises, justement.
Bof, pas trop, ouais, c'est vrai. Allez, au programme, comme tous les jours, nous aurons plusieurs experts en ligne. D'abord, le professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous faisons le point régulièrement avec lui sur le niveau de tension à l'hôpital. Et autre question que nous nous poserons, y a-t-il vraiment un risque de pénurie des médicaments utilisés dans son service, notamment pour soulager les patients les plus gravement atteints. Après ça, nous accueillerons Olivier Girard. Il est ergonome et posturologue. À cause du confinement, de nombreux salariés sont passés en télétravail. Mais être des heures sur un ordinateur chez soi n'est pas toujours très agréable. On bricole un bureau, on s'installe je sais de quoi je parle, dans un espace pas initialement aménagé pour ça. Résultat, cela en peut engendrer des douleurs. Moi, vous avez vu, c'est dans la diction qu'il y a des problèmes. Allez, c'est surtout au niveau du dos. Il va nous expliquer l'art de la posture juste après. Ensuite, autre conséquence de ce confinement, notre cerveau habituellement stimulé par une vie sociale dense et de l'activité physique régulière, il est mis au repos. Alors comment éviter que nos neurones ne se rouillent et comment garder une santé neurovasculaire satisfaisante? Nous ferons le point avec un grand spécialiste du cerveau et des maladies liées au vieillissement, le professeur Philippe Amouyel. Enfin, pour terminer, une petite touche de douceur et d'amour à la fin de cette émission, car même cloîtrés chez nous, les histoires de couple se font et se défont. On reçoit beaucoup de questions aussi en ce sens. Et bien Catherine Blanc, notre psychanalyste, sera avec nous pour en parler.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Bruno Mégarban, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de répondre à nos sollicitations à chaque fois. Je rappelle
merci
que vous êtes médecin réanimateur à l'hôpital Lariboisière à Paris. Donc on a pris régulièrement de vos nouvelles dans cette émission, vous qui êtes en première ligne dans cette épidémie. Comment ça se passe aujourd'hui? Je crois que ça fait 8 jours ou 10 jours qu'on s'est pas eu en ligne. Là, aujourd'hui, quelle est la situation?
La situation est encore plus tendue de jour en jour. Le nombre de patients gravement infectés augmente très régulièrement, d'environ 10 à 15% chaque jour. Nous avons à peu près 2000 personnes admises dans les services de réanimation en Île-de-France. Le nombre de lits est tout limite, tout juste pour pouvoir accueillir des patients supplémentaires. Et comme vous avez suivi l'actualité, un certain nombre de patients ont déjà été transférés vers d'autres régions.
D'accord. Et dans vos lits de réanimation, dans votre service, vous avez encore un lit ou deux? Enfin, il y a encore de la place, je veux dire, chez vous, par exemple?
Alors, habituellement, l'hôpital Lariboisière a 38 lits de réanimation lourde. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 70 lits ouverts de réanimation lourde, donc quasiment plus que doublé le potentiel. Et nous ouvrons ce soir, à partir de 19h, 3 lits supplémentaires, plus 3 autres lits de soins intensifs. Donc les choses sont complexes, effectivement, puisque pour pouvoir ouvrir ce type de lit, il faut prévoir, bien sûr, le personnel médical, le personnel infirmier, les aides-soignants, le matériel, les ventilateurs, les médicaments. Voilà, et donc tout ça,
c'est pas tout d'avoir des lits,
organisationnel,
y a beaucoup
prend beaucoup de temps.
Bien sûr.
Voilà.
Jimmy ?
Professeur, je sais que c'est une question difficile, mais est-ce que on en est arrivé au stade où on va limiter les malades à partir d'un âge? C'est-à-dire que je ne sais pas, est-ce que on a défini qu'à partir de 70 ans, il fallait laisser la place à ceux qui sont plus jeunes, ou nous ne nous en sommes pas là, et est-ce que ça risque d'arriver si l'épidémie continue à ce rythme?
Alors non, évidemment, comme vous le savez, cette infection, lorsqu'elle atteint les poumons de façon sévère, est responsable d'un tableau extrêmement grave pour lequel une réanimation d'au moins 15 jours avec intubation, ventilation mécanique, technique assez agressive, voire même nécessité de suppléance d'autres organes comme le rein, voire le cœur, sont nécessaires. Et donc évidemment, un certain nombre de personnes se qui sont atteints par ces formes graves sont extrêmement fragiles, parfois âgés, ont des comorbidités, et donc leur imposer une réanimation aussi agressive pendant une durée aussi prolongée ne permet pas parfois d'espérer une réversion de la situation. Et donc effectivement, il faudra lors de l'admission d'un patient âgé ou avec des comorbidités sévères, bien peser les avantages éventuels d'aller en réanimation et de subir tous ces thérapeutiques lourdes par rapport au risque, évidemment, de ne pas s'en sortir malgré toute cette prise en charge. Et donc, bien sûr, on va, au moment de la décision d'admettre un patient en réanimation, prendre en compte l'âge, mais pas que, bien sûr, l'état fonctionnel général, les comorbidités et évidemment la gravité extrême de la pathologie aiguë. Donc ce sont des décisions. En fait, ce sont des décisions que l'on prend habituellement en dehors d'une phase de cette phase épidémique. Mais néanmoins, ici, évidemment, ces décisions doivent être prises avec un caractère d'urgence, ce qui n'est généralement pas habituel. D'où l'importance, évidemment, d'anticiper les choses, de connaître précisément l'opinion du patient, ses directives anticipées, l'avis de la famille et bien sûr le contexte de vie du patient. Et lorsque nous ne connaissons pas tout ça, on peut éventuellement décider d'une réanimation d'attente.
Professeur McGarban, on a compris à quel point vous avez poussé les murs, si je puis dire, dans l'hôpital dans lequel vous travaillez, puisque des lits, il y en avait 38 finalement, on a doublé, on a trouvé des lits, fabriqué des lits et les équipes qui vont avec en un temps record. Est-ce que vous diriez que l'activité, elle augmente encore chaque jour, ou est-ce que le plus dur, est-ce que le plus dur est encore à venir, ou ça y est, nous on a envie d'entendre des petites notes d'espoir, mais je sais qu'il y en a peu, est-ce que ça y est, on aurait peut-être un léger ralentissement peut-être ?
Alors non, je ne crois pas qu'il y a de ralentissement prévu, en tout cas concernant les patients infectés par le Covid dans les jours qui viennent. Nous ne sommes pas encore au pic, je ne sais pas quand ce pic se produira. Le nombre de patients gravement infectés augmente quasiment tous les jours de 10% à peu près. Donc les choses sont encore en augmentation. Et l'hôpital essaie de faire face évidemment quotidiennement en s'adaptant, en augmentant les espaces et le nombre de lits capables d'accueillir ce type de patients, en recrutant des volontaires, médecins, infirmiers, venant d'autres régions, prêts à nous aider. Et donc, grâce à Dieu, au jour d'aujourd'hui, les choses encore se font de façon correcte et permettent évidemment d'offrir les soins nécessaires à l'ensemble des patients qui se présentent.
Jimmy ?
On a appris la semaine dernière qu'une jeune fille de 16 ans était décédée, une autre adolescente en Belgique. Donc on a au fur et à mesure des petites informations par-ci par-là que certains jeunes décèdent. Est-ce que vous avez des patients de plus en plus jeunes ? Est-ce qu'on pense que finalement on va avoir plus de décès chez des personnes un peu plus jeunes qu'initialement prévu ?
Alors, en fait, le risque de faire une forme grave d'infection par Covid-19 dépend non seulement de l'âge, mais aussi des maladies sous-jacentes. Donc, effectivement, un adolescent qui est plus jeune, qui est en meilleure santé, qui généralement n'a pas de comorbidité, a très peu de risque de faire une infection grave. La majorité des adolescents et des jeunes personnes feront des formes asymptomatiques ou peu symptomatiques. Mais évidemment, ce risque existe, il n'est pas nul, et plus on va avoir un nombre important de jeunes contaminés, et plus effectivement on va observer la possibilité d'avoir l'une d'entre elles qui va présenter une forme grave, voire une forme fulminante et mortelle. Mais il faut le dire et rassurer l'ensemble de vos auditeurs, l'infection par coronavirus chez la personne jeune reste bénigne dans la quasi-totalité des cas.
Vous dites la personne jeune et qui plus est les enfants, hein, surtout, c'est ça ?
Bien sûr, les enfants. Mmh. En fait, plus on est jeune et plus on ne présente pas de forme grave.
Merci, professeur McGarban. Bien sûr, on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec évidemment une émission consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Avec nous en ligne aujourd'hui plusieurs experts et le professeur McGarban, médecin réanimateur, reste avec nous pour répondre justement à vos questions. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h avec une émission tous les jours consacrée pendant une heure à l'épidémie de coronavirus. D'ailleurs, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions au 3921 ou sur le hashtag Radio Ouverte. Et vous pouvez retrouver chaque jour toutes les réponses dans un podcast spécial, Ma question coronavirus. Il est disponible sur le site d'Europe 1, Apple Podcast et toutes vos plateformes habituelles d'écoute. Alors, il est toujours avec nous en ligne, professeur Bruno Mégarban. Vous êtes chef d'un service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Professeur Mégarban, on l'entend beaucoup depuis hier, les hôpitaux s'inquiètent de la pénurie peut-être à venir des médicaments essentiels que vous utilisez en réa. C'est vrai ça ? Quel est l'état de vos stocks à vous par exemple ?
Alors effectivement, on va dire avec l'augmentation très importante de l'activité, du nombre de patients de réanimation, un certain nombre de médicaments ont atteint les limites des stocks. Alors, ceci concerne essentiellement les médicaments qui permettent la sédation et ou les curares, c'est-à-dire les médicaments qui paralysent les muscles au moment où l'on effectue la ventilation artificielle. Alors, évidemment, ceci, bien sûr, nécessite une réponse avec une anticipation des choses, des discussions que l'on a quotidiennement avec nos pharmaciens et l'encadrement pour adapter nos pratiques.
Justement, je crois que vous les avez déjà adaptées, hein, même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un flacon de médicaments, vous l'utilisez jusqu'à la dernière goutte, je crois.
Hein. Exactement, on évite de faire du gâchis, on utilise la totalité du produit dans les flacons et les ampoules, on affine les dosages pour mieux personnaliser les thérapeutiques bien sûr, on adapte le choix des spécialités en fonction des choix des spécialités des médicaments en fonction de ceux qui sont disponibles. Donc évidemment, ça nécessite bien sûr pour le personnel médical et soignant une gymnastique permanente pour pouvoir faire face à ces stocks limités. Mais il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, et j'espère que cela bien sûr va durer, à aucun moment nous ne sommes heurtés à la nécessité de ne pas admettre un médicament que l'on aurait souhaité donner.
D'accord. Jimmy ?
D'ailleurs, on a entendu parler d'un produit fabriqué par une société de biotechnologie française, Emarina, issu d'un ver marin qui pourrait être un transporteur universel d'oxygène et qui pourrait remplacer peut-être les respirateurs si on en manque. Il y a une étude qui est en attente de démarrer. En fait, il manque un accord. Vous en pensez quoi de ça ?
Alors c'est vrai que on va dire il existe en conception des produits qui permettent d'optimiser le transport de l'oxygène. Alors c'est vrai que le poumon est l'organe cible principal dans les formes graves de Covid, et donc bien sûr permettre de mieux oxygéner le sang est quelque chose d'intéressant. Néanmoins, à ma connaissance, ce produit n'a au jour d'aujourd'hui jamais été utilisé chez l'homme. Il n'a été utilisé que dans des études expérimentales in vitro ou dans des modèles animaux. Et donc effectivement, le passer à l'homme, l'administrer dans les vaisseaux sanguins comporte en soi un risque qui n'est pas encore évalué. Donc je dirais, j'ai bien peur qu'on soit encore relativement loin d'une application clinique de ce type de produit.
Peut-être pas pour cette épidémie-là, en tout cas, c'est sûr. Professeur Mégarban, on reçoit beaucoup de questions ici à Europe 1. On va en prendre une à laquelle vous pourrez peut-être répondre. C'est celle de Daniel. On l'écoute.
Je voudrais savoir si les maux de ventre pourraient être un symptôme du coronavirus.
Professeur Mégarban, on apprend tous les jours sur cette infection. Vous nous l'avez dit plusieurs fois, d'ailleurs, que le tableau clinique ne cesse de changer, les symptômes que vous avez vus et même découverts en cours de route. Est-ce que les maux de ventre, les troubles digestifs, ça fait partie du tableau clinique ?
Alors oui, tout à fait. Donc c'est une infection virale, et comme beaucoup d'infections virales, il peut y avoir des formes polymorphes, c'est-à-dire qui vont se manifester par des présentations différentes, plus ou moins graves. Et donc effectivement, les douleurs abdominales, les vomissements, la diarrhée peuvent tout à fait correspondre à une infection par Covid-19, ce d'autant plus qu'elle s'accompagne de fièvre, de fatigue, de toux ou de signes ORL. Mais récemment, il y a quelques jours, un patient s'est présenté à nos urgences pour un tableau abdominal douloureux évocateur d'une appendicite. Et au moment de la réalisation du scanner abdominal, quelques coupes faites sur la partie supérieure, donc montrant le poumon, a révélé une atteinte pulmonaire du Covid. Et ainsi, chez ce patient venu consulter pour une suspicion d'appendicite, nous avons fait le diagnostic d'infection par Covid-19. Il n'avait bien sûr aucune appendicite.
D'accord. Alors, on a une autre question d'une auditrice, professeur Megarman. Jimmy, vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non. La question de l'auditrice, elle est très intéressante. Hein, je vous laisse la poser. C'est celle, c'est celle de Brigitte qui parle des anti-inflammatoires. On l'écoute.
Je voulais donc poser une question au docteur Jimmy Mohamed. Je voulais savoir, voilà, je suis migraineuse et je prends du Nurofen de sang. Et je sais qu'avec le coronavirus, on peut pas en prendre. Mais quand j'ai vraiment une crise qui passe pas, ben, j'ai pas le choix, quoi. Donc je voulais savoir si je pouvais le prendre quand même ou pas. Merci beaucoup. Au revoir.
Alors c'était pour Jimmy, mais on va vous poser la question à vous, professeur Megarman. Jimmy, vous compléterez. Je ne sais pas si vous pouvez répondre précisément à Brigitte, mais est-ce que vous avez remarqué dans votre service vraiment ces patients graves chez qui on retrouve la prise d'anti-inflammatoires comme antécédent peut-être et donc potentiellement qui pourrait jouer dans l'aggravation de la maladie ?
Alors oui, effectivement, on a un certain nombre de patients qui ont pris quelques jours avant leur admission en réanimation, donc dans le cadre des signes débutants du Covid-19, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'ibuprofène au titre antalgique. Alors il n'est pas bien sûr clair au jour d'aujourd'hui que cette prise médicamenteuse ait favorisé le passage à une forme plus grave. Beaucoup de patients prennent également du paracétamol. Là également, il n'est pas clair si le paracétamol joue un rôle protecteur ou facilitateur de forme particulière. Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à la question, mais il est vrai qu'il y a eu une alerte de l'ANSM sur le sujet. Mmh. Et dans tous les cas, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, par rapport au paracétamol, peuvent altérer ou modifier l'immunité. Lorsqu'on a le choix entre prendre du paracétamol ou de l'ibuprofène ou un autre anti-inflammatoire non stéroïdien, il vaut mieux choisir le paracétamol dans l'état actuel des connaissances.
Merci beaucoup, professeur Megarban, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon courage, on a compris, c'est vraiment une course d'endurance pour vous et vos équipes. On pense bien à vous et à vous tous. Bravo pour votre travail et merci encore.
Merci à vous.
Dans un instant, votre émission Sans Rendez-vous revient avec une conséquence de cette épidémie dont on parle peu chez les gens qui ont dû basculer en télétravail. Beaucoup maintenant se plaignent de douleurs au dos, de troubles musculo-squelettiques quand on reste des heures devant un ordinateur dans un espace pas prévu pour ça à l'origine. On prend de mauvaises positions, on se fait mal. Alors comment éviter ça ? On vous dit ça juste après. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans Rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et on accueille tout de suite par téléphone Olivier Girard. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes ergonome et posturologue. Vous êtes aussi l'auteur du livre Plein le dos, le manuel de la posture, publié aux éditions Favre. Alors avec ce confinement, beaucoup de gens en télétravail surtout se plaignent de nouvelles douleurs à la nuque, au dos. On a reçu beaucoup de questions en ce sens. Comment on explique ça d'abord ?
Alors, je crois qu'effectivement, il faut comprendre que beaucoup de gens ont été mis face à cette situation-là de façon pas très préparée. On a tous ameublé notre appartement parce que c'était joli, pas vraiment parce que c'était fonctionnel ou parce que c'était confortable. Alors, quand on y passe quelques minutes pour manger, ça va. Quand il faut y passer 8 heures, 10 heures pour travailler, ça devient un autre problème. Ça, c'est le tableau un petit peu global. Si on va un petit peu dans le détail, on se fait mal au dos, ou n'importe où ailleurs d'ailleurs, pour une combinaison de facteurs. Les quatre facteurs, c'est ce que vous faites, dans quelle posture, pendant combien de temps et dans quel état psychologique. Posture, activité, durée, stress.
On va les détailler un tout petit peu et assez rapidement, malheureusement. Il y a les mauvaises postures qu'on prend. Est-ce que le stress aussi peut jouer ? Vous disiez oui, c'est ça, parce qu'on travaille chez soi avec des enfants qui hurlent derrière la porte. Je sais de quoi je parle. Ça joue aussi dans l'apparition de ces troubles squelettiques, musculo-squelettiques ?
Ça joue assez aussi. On peut parler de supporter le conjoint, on peut parler de cadres qui ne savent pas forcément bien gérer à distance, et donc c'est un stress dans les deux sens. Donc oui, les facteurs qu'on appelle psychosociaux sont des facteurs importants en matière de troubles musculo-squelettiques. Je vous avoue que je concentre mes actions à court terme plutôt sur la partie mécanique, posture, durée, parce que si vous voulez, gérer le stress, c'est pas très simple, notamment dans l'urgence. Il faudrait devenir des grands philosophes, mais moi je crains que dans un mois, on ait plus d'alcooliques que de philosophes dans les rues, vous voyez.
Jimmy, allez, on va passer à la pratique, allez-y.
Oui, parce que justement, comment est-ce qu'on fait pour s'aménager un petit poste de travail le plus ergonomique le possible? Parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on a tendance à se mettre dans un coin où il y a le moins de monde et le moins de bruit. Est-ce que vous avez deux, trois petites astuces qu'on pourrait tous utiliser lorsqu'on doit faire un peu de télétravail à la maison?
Oui, bien sûr. Je crois qu'il faut raisonner en deux zones. La première zone sur laquelle il faut travailler, c'est la zone bassin. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bon, ben, si je veux que ma colonne vertébrale soit en bonne santé, il faut que mon bassin soit stabilisé. Stabiliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois pouvoir être assis sur les os des fesses, ce qu'on appelle les ischions, et contre quelque chose qui est derrière ma ceinture, qu'on appelle le support lombaire. Et donc, vous voyez que votre canapé, il est trop bas et trop profond, donc on fait sauter le canapé. Ensuite, sur les chaises qui sont un peu plus hautes, on va aussi faire sauter le tabouret de bar, parce que le tabouret de bar, il n'a pas de dossier, donc il n'y a rien qui va tenir sur votre ceinture.
Ah, ouais.
Donc, on en revient à quelque chose qui est plus ou moins une chaise.
Il faut que les pieds touchent par terre, hein, déjà, ça c'est important.
Les pieds doivent toucher par terre de sorte à ce que le sol puisse vous jeter au fond du siège, on va dire. Si vous ne touchez pas le sol, vous ne toucherez pas le fond du siège. Et donc, le bassin ne sera pas stable.
Donc, et la table du salon, c'est mieux que... Oui, allez, pardon, excusez-moi.
Donc, si vous voulez, effectivement, on arrive là sur les problématiques de siège. Ensuite, une fois que vous avez le bassin calé, on arrive sur la deuxième zone qui est la zone nuque. Et c'est là où on parle de la table du salon. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une table qui vous permet d'avoir vos outils de travail plus ou moins sous la pointe, enfin, sous vos doigts. Quand vous travaillez.
Et les tables. Le bras salon, à 90 degrés, hein, c'est ça, plié à 90
ouais,
degrés.
Oui, grosso modo. Quoi, hein, l'important, c'est d'avoir les poignets droits. Donc, ça, la table peut être un petit peu au-dessus des coudes, mais certainement pas au-dessus. Hein. Et donc, si vous voulez, ce qui va être important, c'est effectivement d'observer que la table du salon, elle est souvent un peu haute. Donc, quand on a une chaise qu'on peut monter, on va essayer de la monter, mais ça va supposer de remonter le sol, donc de mettre un repose-pied. Ou alors, on va devoir mettre des coussins, des annuaires sur l'assise.
Jimmy ?
Oui, et du coup, par exemple, l'ordinateur. Moi, j'ai tendance à le mettre sur les genoux. Voilà. Est-ce qu'il faudrait, je ne sais pas, mettre un ou deux livres supplémentaires, ne plus travailler dans le lit, parce que c'est ce qu'on fait aussi ?
Ouais, alors ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la nuque, on la protège en deux endroits. La première, c'est en ayant une table à la bonne hauteur, hauteur des coudes. La deuxième, c'est en évitant une flexion trop profonde de la nuque. C'est-à-dire quand vous pliez la nuque plus que 20 degrés, ben, vous commencez à multiplier le risque de vous faire mal à la nuque. Et c'est ça le problème du laptop sur les genoux, enfin de l'ordinateur portable sur les genoux, qui pourrait être le problème de la tablette et du téléphone portable aussi. C'est que vous avez la ligne du regard qui est beaucoup trop basse. Donc si vous voulez, avec l'ordinateur portable, la seule solution malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, c'est d'utiliser un clavier et une souris séparés, de sorte à ce que votre ordinateur portable devienne un simple écran. Et à ce moment-là, comme c'est un simple écran, vous mettez sur 2-3 bouquins, vous utilisez le clavier et la souris là où c'est optimum de les avoir et on n'en parle plus. Donc vous êtes revenu à une configuration ordinateur de bureau.
On va avoir le temps de faire un seul point pour terminer. Pour travailler, on a parlé de la position ergonomique, tous les petits conseils que vous venez nous donner qui sont très importants. Mais je crois qu'il faut vraiment se poser, faire des pauses justement aussi, ça c'est très important. Il ne faut pas rester 6 heures d'affilée sur son ordinateur, hein, c'est ça, c'est pour éviter les douleurs. Hein.
Ouais, et là, gardez en tête que les pauses fréquentes sont plus importantes que les pauses prolongées. C'est-à-dire que les premières minutes de pause sont beaucoup plus efficaces que les suivantes. Donc, il faut multiplier les courtes pauses plutôt que de bosser d'arrache-pied pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures et puis se dire « mais je vais faire une heure de pause ». C'est beaucoup moins utile que démultiplier les petites pauses.
D'accord. Et si on fait des grosses pauses, disons, on reste... C'est mieux de travailler sur l'ordinateur fixe qu'un ordinateur portable, mais sur le portable, c'est 2 heures maximum et on se lève toutes les 30 minutes, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est-à-dire que, grosso modo, le 2 heures sur l'ordinateur portable, c'est ce que je recommande comme la durée d'utilisation quotidienne. Donc, vous voyez, en ce moment, ça va vous poser problème.
Ah oui, moi, j'en suis plutôt à 10 ans.
S'il fallait faire une pause toutes les heures, grosso modo, hein, sur un ordinateur de bureau, c'est un minimum syndical. Vous divisez par 3, vous arrivez à 20 minutes sur un ordinateur portable. Donc, encore une fois, on en revient à l'essentiel. Essayez de revenir à une configuration ordinateur de bureau avec un portable.
Merci beaucoup Olivier Gérard d'avoir été avec nous pour nous donner donc tous vos bons conseils pour éviter les douleurs en cette période de télétravail un peu forcée pour certains. Je suis sûre que ça sera très utile pour beaucoup mais en ce moment. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, son rendez-vous revient avec une autre conséquence du confinement. On a tous le cerveau qui fonctionne un peu au ralenti par manque de relations sociales aussi, qui nous agite d'habitude les neurones vraiment beaucoup. Alors avec le professeur Philippe Amouyel, on va vous aider à le garder bien vif, votre cerveau. Et puis, n'oubliez pas, je vais vous donner aussi la réponse à la petite énigme que j'ai postée sur Twitter tout à l'heure. Vous êtes nombreux à vous en être bien... à vous être surtout bien plantés, pardon. Promis, je vais vous donner la réponse juste après. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Depuis deux semaines, vous l'avez compris, notre émission s'adapte. Évidemment, nous restons mobilisés pour vous informer, mais depuis chez nous. Alors à présent, on accueille par téléphone le professeur Philippe Amouyel. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Alors vous êtes spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et aussi le directeur général de la Fondation Alzheimer. D'abord, vous êtes un grand spécialiste du cerveau, ça on le sait, on vous a reçu de nombreuses fois dans cette émission pour en parler. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les principaux risques pour lui, notre cerveau et notre santé neurovasculaire, je dirais, à cause du confinement ?
Alors je crois qu'il ne faut jamais dissocier le cerveau du cœur, surtout dans une période où on doit rester, pour d'autres raisons, enfermé chez soi. Donc je pense que la première préoccupation d'abord, c'est le cœur. Parce qu'en fait, quand on est enfermé chez soi, il y a plusieurs facteurs qui vont agir sur le cœur et qui par la suite vont agir sur notre cerveau. Le premier, c'est le fait d'être enfermé. L'enfermement est quelque chose de difficile à vivre. Nous sommes des êtres libres qui nous promenons et ça peut avoir des retentissements psychologiques. Or, on sait que le psychologique a un impact assez important sur le cœur. Certains patients qui sont très émotifs peuvent faire des problèmes cardiaques. Et actuellement, avec mes équipes, on se demande si... il ne serait pas important d'essayer de mesurer s'il ne va pas avoir une influence de ce confinement sur justement les maladies cardiaques. Mais plus directement, le fait de rester enfermé fait qu'on fait moins d'exercice. Comme on l'a vu beaucoup, on fait des réserves, on va se mettre à manger, on va tourner en rond, on va faire du snacking, on va rester à regarder des écrans. Et ça, ce sont des facteurs dont on sait qu'ils ont tendance à augmenter notre niveau de risque cardiovasculaire.
Bien sûr. Jimmy ?
Est-ce que le fait d'être confiné chez soi, qu'on soit seul, même si on est en famille, le fait d'avoir moins d'interactions sociales ou professionnelles, est-ce que ça peut nuire au cerveau ?
Oui, bien sûr, puisque un des facteurs essentiels de la stimulation de notre cerveau, c'est la relation sociale. Donc cette absence de relation sociale va entraîner un certain nombre de troubles relationnels directement et moins d'immunité de cerveau qui va tourner en roue libre et ne pas pouvoir s'équilibrer avec les uns et avec les autres comme il le peut le faire habituellement. Et cet équilibre peut se faire tant sur le plan affectif positif, c'est-à-dire que vous voyez des gens que vous aimez, ou sur le plan affectif négatif, c'est-à-dire que vous avez des relations un peu conflictuelles. Tout ça, c'est la vie quotidienne et c'est ce qui fait que votre cerveau travaille en permanence et à ses interactions.
Donc c'est la stimulation qui est en fait du stress et qui crée de l'oxydation et ça c'est pas très bon pour le cerveau et pour le cœur, hein, c'est ça en fait le problème.
Alors justement, ça c'est si on parle même d'oxydation, mais là l'oxydation à mon avis elle est plutôt liée au changement d'alimentation qui risque de se produire, au manque d'activité physique qu'au manque de relations sociales.
Est-ce que le fait de manquer un peu de lumière aussi, parce que bon, on a le droit de sortir un petit peu, faire quelques sorties éventuellement pour rester un petit peu en forme, mais seul, enfin c'est compliqué aujourd'hui, on doit rester le plus chez soi. Est-ce que le fait de manquer de lumière comme ça, ça peut dérégler notre horloge biologique, ça on le sait, mais du coup, est-ce que c'est mauvais pour le cerveau ?
Alors, c'est mauvais pour le cerveau dans un certain sens. Et c'est là ce que je recommande actuellement, c'est que l'exposition à la lumière est un des principaux facteurs qui permet de synthétiser de la vitamine D. Or, la vitamine D, elle est importante pour l'équilibre de nos neurones, elle est importante pour certaines douleurs osseuses, bien sûr pour la notion de stabilité des os et du calcium. Mais on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont parfois des troubles légers des fonctions cognitives peuvent avoir des taux de vitamine D extrêmement bas. Or, on est à une saison où d'habitude, on commence à refaire de la vitamine D parce que c'est le printemps, parce qu'il y a du soleil. Là, on n'a plus cette occasion. On estime à peu près qu'il faut avoir les bras nus, le visage nu et la tête nue exposés une demi-heure à trois quarts d'heure au soleil pour faire suffisamment de vitamine C. On n'est plus dans ces conditions. Donc, quand vous voyez votre médecin, une petite complémentation en vitamine D ne sera pas négligeable.
À la fin de tout ça, effectivement, Jimmy ?
Est-ce qu'on sait si les risques qu'on prend en ce moment en restant à la maison durant plusieurs semaines pourraient avoir un impact sur notre santé neurologique sur le long terme ?
Ça, c'est une très bonne question. On est dans une situation totalement nouvelle. On n'a jamais vu jusqu'à présent l'obligation de confiner 2 milliards d'individus sur la planète. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'essayer de mettre des systèmes de surveillance, d'identifier ce qui pourrait se passer. Sur le plan neurologique directement, sincèrement, je ne peux pas vous répondre. Sauf si on part sur le principe que le fait de se confiner supprime certaines stimulations. Et c'est justement comme ça qu'il faut essayer de les combattre. Pour faire bien fonctionner son cerveau et l'entretenir, il y a toujours quatre grands principes. Le premier, c'est de le stimuler. Le deuxième, c'est de le protéger parce qu'il est fragile. Le troisième, c'est de bien l'entretenir avec une bonne alimentation et une activité physique. Et le dernier, c'est les relations sociales. Donc vous voyez que sur ces quatre grands axes, il y en a déjà au moins deux qui présentent des problèmes. Donc il faut se renforcer sur les autres axes qui sont la stimulation et la protection.
Alors justement, la stimulation, on va y venir. Vous restez avec nous, professeur Amouyel. On se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission santé revient. Le professeur Amouyel reste avec nous. On va passer aux astuces, aux choses concrètes qu'on peut mettre en place pendant ce confinement pour garder un cerveau en bien en bonne forme, bien sûr. Et c'est là, hein, promis, juste après qu'on vous donne la réponse à la petite énigme mathématique qu'on a postée sur Twitter et pour laquelle on a déjà eu beaucoup de réponses, enfin surtout des mauvaises réponses. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est là lui aussi, toujours en ligne avec nous, c'est le professeur Philippe Amouyel, spécialiste des maladies du vieillissement au CHU de Lille et aussi le directeur général de la Fondation Alzheimer. Professeur Amouyel, pour maintenir un cerveau en forme, il faut le stimuler, ça vous l'avez dit. On va parler essentiellement de ça là à présent. Est-ce que cela peut passer par le jeu? Je sais que les jeux de société, vous nous en aviez déjà parlé, c'est excellent pour le cerveau.
Alors le jeu, c'est la façon naturelle qu'a l'homme d'apprendre. Regardez chez les enfants, et ça se prolonge avec l'âge. Et le fait d'avoir un aspect ludique dans le jeu, c'est ce qui va stimuler, contracter votre attention. C'est aussi un formidable lieu d'interaction sociale. Je pense en particulier à ce qu'on appelle les jeux de plateau. Alors bien sûr, vous avez les jeux sur Internet. Vous avez vu que l'OMS conseille d'aller se stimuler sur Internet en faisant des jeux en réseau. Mais les jeux de plateau simples, le jeu de loi, les petits chevaux et tous les jeux de plus en plus évolués qu'il y a autour de ça, crée en fait une relation sociale également. Donc, que des bonnes choses pour stimuler son cerveau avec ces jeux.
Bon, eh bien justement, pour jouer, nous aussi, on a été joueurs aujourd'hui. J'ai posté sur Twitter tout à l'heure une petite énigme mathématique qui paraît comme ça quand on la regarde niveau CM2, mais qui a donné beaucoup de fil à retordre à beaucoup de gens qui attendaient d'ailleurs la réponse là derrière le poste. Et à vous aussi, Jimmy, je crois avouer, hein, vous avez eu du mal quand même quand je vous l'ai envoyé ce matin.
Oui, ça m'a pris quelques secondes qui paraissent des minutes, effectivement. C'était, voilà, c'était pas tout, j'ai pas tout de suite eu la réponse, hein, je suis honnête. Ouais.
Bon, alors la réponse, justement, certains d'entre vous l'ont trouvé hein, sur Twitter, c'était 43. Et très rapidement, Jimmy, parce qu'ils en veulent le détail, du coup, comment on arrive à 43? Je crois que professeur Amouyel, vous attendez aussi la réponse. Hein.
Il y a une paire de baskets. Une paire de baskets, c'est 10. Le petit garçon, c'est 5. Deux cornets, c'est 4. Donc sur la dernière image, on a un garçon qui porte deux cornets. Donc le garçon, c'est 5. Plus les deux cornets, ça fait 4. Et ce garçon, il a une paire de baskets. Donc on rajoute. J'ajoute 10, ça fait 19. La multiplication, c'est la priorité lorsqu'il y a des chiffres à faire.
Calcul,
donc on
voilà,
a 19 sans, qu'on sans multiplie parenthèse. Par un cornet, donc c'est 2, donc ça fait 38, auquel on rajoute une basket qui restait, et donc ça fait 38 plus 5, on arrive à 43.
Je ne sais pas si c'était clair, moi j'ai tout compris, mais vous avez suivi, professeur Amouyel ?
Oui, très bien. Et en fait, j'ai raté les baskets du petit garçon. J'ai vu les glaces, j'ai vu les paires de baskets, mais j'ai
professeur,
pas vu.
Professeur, on a tous une bonne excuse d'avoir raté quelque chose dans cette énigme. Hein. Voilà, on a tous quelque chose qui ne va pas. Hein. Mais voilà, en tout
moi,
cas,
j'avais raté la multiplication carrément au départ. Donc j'étais parti sur une addition, vous voyez. Bon, est-ce que ça, c'est des professeurs Amouyel, des devinettes comme ça à faire en famille? D'ailleurs, je salue ma maman qui m'a envoyé cette énigme ce matin, qui a agité toute ma famille, puis l'équipe de Sans Rendez-vous, puis Twitter, puis tous les journalistes d'Europe 1, les équipes d'Europe 1, tout le monde est dessus. Donc merci maman, je t'embrasse. Philippe Amouyel, est-ce que c'est une bonne idée ces devinettes en famille, entre collègues?
Mais ça stimule encore plusieurs secteurs parce qu'il y a cet enjeu d'échange qu'on fait ou sur Twitter ou sur Internet ou au téléphone. Il y a l'aspect de réflexion, l'aspect d'attention et puis tout l'humour qu'il y a autour de ça. Et rire aussi est un élément essentiel dans ce confinement. Il faut en avoir une notion avec des amis. Donc vraiment, c'est un petit exemple très riche, très simple et... vous devriez en lancer tous les jours peut-être pour nos auditeurs.
On va essayer pour stimuler les neurones de nos auditeurs et nous, les nôtres aussi, hein, parce qu'on a fait les malins là, mais on a mis un petit peu de temps ce matin à trouver aussi. Jimmy, vous vouliez parler des jeux vidéo, je crois.
Oui, parce que est-ce que c'est une bonne idée de jouer aux jeux vidéo vu que les adolescents finalement ont du temps, le fait d'être collé à sa console, est-ce que c'est néfaste ou au contraire on doit peut-être lâcher un peu de lest?
Alors là, je pense que dans les conditions actuelles, il faut sûrement lâcher un peu de lest, parce qu'entre le télétravail, entre les chaînes d'infos continues, parce que tout le monde est inquiet, veut avoir des informations, l'exposition aux écrans est extrêmement importante pendant cette période de confinement. L'OMS, quand elle a lancé son message là, il y a 48 heures, et certaines sociétés qui fabriquent des jeux vidéo au réseau les ont ouverts et les ont mis de manière gratuite. Ce qu'elle voyait, elle, c'est surtout la suppression de l'isolement, les interactions, en fait, cette notion d'interaction sociale au travers du jeu vidéo. Mais la consommation d'écran risque d'augmenter de manière extrêmement significative. Donc il faut essayer de la réduire. Quelques exemples, les informations, des fils en flot continu qu'on a laissé tendance à passer, il faut les prendre par exemple à heure fixe. Le télétravail, c'est comme au travail, il faut se fixer des heures. Et ce qu'il faut éviter, c'est le soir, après 18h ou 20h, d'être en plein écran de lumière bleue. Alors si vous avez des atténuateurs de lumière rouge, les utiliser. Tout ça, ça montre que finalement, pour résister au confinement, il faut des rituels. Ce que l'on perd le plus, c'est le rythme.
Pardon. Je reviens sur les jeux vidéo, Philippe Amouyel. Vous nous aviez dit dans une précédente émission que même pour les personnes âgées, c'était très bon de faire certains jeux vidéo en famille, à plusieurs parfois même. Hein.
Tout à fait. Quand on passe un samedi après-midi autour d'un jeu où on conduit une petite voiture et on essaie d'attraper des petits lots, ça c'est très utile parce que là encore, on retrouve cet aspect jeu, relations sociales et stimulation du cerveau, notamment de toutes les activités qui permettent de réfléchir et d'agir extrêmement vite. Mais tout est une question de dose, puisque le risque dans le confinement, c'est un peu d'en consommer trop.
Et professeur Amouyel, la lecture, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lisent en ce moment, et c'est très bien, ou qui se sont remis à lire, on a le temps. Je sais qu'en temps normal, vous dites que c'est une activité intellectuelle qui est importante et que vous conseillez pour entretenir son cerveau. Pourquoi d'ailleurs ça agit comment en fait sur le cerveau, le fait de lire en fait?
Alors, la lecture, c'est le meilleur stimulant. Pourquoi? Parce que ça fait travailler tout votre cerveau. Les histoires de « on ne fait travailler que 10% de son cerveau », c'est faux. En permanence, on fait travailler tout son cerveau. Quand vous lisez, par exemple, la première chose que vous faites une reconnaissance visuelle, vous interprétez les symboles, ces symboles ont un sens, ce sens vous rappelle des idées, des sensations, des souvenirs, ils sont associés à différents éléments, donc tout votre cerveau est en interaction et vous êtes captivé en général par cette lecture, que ce soit une bande dessinée, un roman classique ou un roman policier. Peu importe.
J'allais dire, parce que Jimmy, il lit que des BD, cerveau. Ça marche aussi pour les BD. Bon, il lit quelques études scientifiques aussi, mais...
Pour les BD. Ben, faut pas regarder que les images, faut lire aussi les bulles, mais bon, ça marche très très bien pour les BD aussi.
Jimmy, une dernière question pour terminer.
Oui, bouger malgré tout, ça reste important, mais jusqu'à quel point?
Bouger jusqu'à quel point? Je crois que ce qu'il y a de mieux à faire quand on est dans ces notions de confinement, il y a bien sûr la sortie pour s'aérer, mais il y a un certain nombre de restrictions. Et puis l'objectif, c'est quand même de sortir le moins possible. Je crois que les activités à la maison, et il se trouve là, on va reparler des écrans, il y a un certain nombre de tutos qui tournent où on vous explique comment faire du yoga, comment faire un peu de gym, comment faire un peu de sport, sont des éléments excellents. Parce que ça permet de les faire dans des pièces qui ne sont pas très grandes. Et en particulier, tout ce qui est yoga et méditation, hein, tous ces outils-là sont excellents pour le cerveau. Et en plus, vont commencer à réduire la tension qu'il y a à rester confiné pendant des jours et des jours. Donc je pense que sur ce point d'activité physique, vous n'allez pas vous mettre à faire. Alors il y a des exploits, j'ai vu quelques marathons sur un,
oui,
sur
bon,
un balcon.
On ne peut pas y aller tous, ça. Ouais, c'est pas à la portée de Jimmy, en tout cas, c'est sûr.
Donc, en revanche, commencez à en profiter pour apprendre. Il y a d'excellents tutos sur Internet, du yoga, des techniques de méditation, qu'on pourra ensuite réutiliser quand on sera sorti, vont apporter en plus la sérénité qui est nécessaire pour pouvoir tenir longtemps.
Merci beaucoup, professeur Amouyel, pour tous ces conseils. Donc, vous retenez la réponse, c'était 43 à la petite énigme. Merci d'avoir été avec nous. Je sais qu'en ce moment, vous êtes en renfort pour la régulation Covid du SAMU 59, qu'on salue d'ailleurs. On salue tous les gens qui vous entourent au passage. Bon courage à vous et merci encore.
Merci, Mélanie.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés le docteur Jimmy Mohamed et nous sommes rejoints à l'instant même en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie. Alors, bonjour Catherine, Jimmy, je ne me réponds pas parce qu'il est très loin.
Il est là, il vous écoute, il vous attend avec impatience, vous savez bien tous les jours, c'est son moment préféré de l'émission. Alors Catherine, on va tenter de répondre à la question de Sarah aujourd'hui. Sarah, elle a 31 ans et nous écrit la chose suivante. Mon copain et moi sommes en couple depuis 4 mois, mais nous n'habitons pas ensemble. J'étais sur le point de vouloir rompre avant l'épidémie. Je ne sais pas si je dois attendre la fin du confinement pour lui annoncer ma décision. Qu'en pensez-vous? Alors effectivement Catherine, je souris parce que on se dit c'est peut-être pas le moment effectivement, mais vous allez nous dire si on se trompe. Si elle décide de rompre maintenant, ça va être forcément par téléphone. C'est pas un peu dur là quand même, psychologiquement, c'est un peu délicat quand même, non?
Je crois que malheureusement, certains ne s'encombrent pas de confinement et d'ailleurs en temps habituel ne se privent pas de rompre de cette manière-là, ce qui est évidemment pas souhaitable, bien sûr pour l'autre parce que c'est extrêmement violent, mais aussi parce que c'est important aussi de faire face à ses limites et à dire les choses aux gens, les dire les yeux dans les yeux, les dire en laissant aussi à l'autre le droit de s'exprimer, le droit de le souffrir aussi. C'est un respect que l'on doit à l'autre certes, mais c'est aussi un respect que l'on se doit pour mesurer sa compétence à faire des choix dans sa vie et pas fuir l'inconfort pour toujours courir vers une idée du bonheur sans emporter toute la responsabilité, parce que le bonheur, c'est aussi la capacité à faire face à ce qui ne nous convient pas, c'est ça la richesse de l'individu, c'est ce qui fait que demain on peut manager des gens et dire que ça va ou que ça ne va pas quand bien même on les aime, c'est ce qui fait que on pourra dire à ses enfants de ne pas faire des choses quand bien même on les aime, sans chercher toujours les rapports de séduction, plaire à l'autre ou ne pas voir qu'on leur plaît pas, pour s'illusionner comme si on était toujours désirable et plaisant. Non, nous sommes aussi parfois assez détestables parce que nos choix ne vont pas dans le sens du désir de l'autre.
Oui. Jimmy ?
Mais est-ce que c'est si grave de se faire larguer alors qu'ils ne sont en couple que depuis 4 mois ? Alors bon, je ne connais pas la nature de leur relation, mais c'est peut-être pas comparable à quelqu'un qui serait, je sais pas, depuis 2-3 ans, 4 mois, on peut s'en remettre, confinement ou pas, non ?
Peut-être, mais vous savez bien qu'avant d'avoir une relation qui a la durée de la vôtre, Jimmy, avec des enfants et une vie qui est construite et qui ne remet plus en question cet amour, il y a eu ces premiers quatre mois qui étaient suffisamment forts pour que vous puissiez tisser, nouer des relations de sécurité, de force. Donc évidemment que l'un peut avoir le sentiment que l'amour n'a pas suffisamment d'ancrage. L'autre peut être très investi, donc ce peut être extrêmement douloureux, quand bien même avec le recul, on peut se dire que rien n'avait été construit, que donc la perte, ce n'est que la perte de l'autre, et pas la perte de ce qu'on aurait créé ensemble si ça avait duré effectivement plus longtemps. Mais en attendant, c'est la perte d'une illusion, c'est la perte d'un projet, et c'est la douleur cuisante des brusqueries du cœur. Et il n'y a pas de temps, ça peut être extrêmement douloureux, bien sûr qu'avec le futur, avec les amours futurs, avec les constructions, on peut le regarder avec beaucoup de sourire parce que finalement la vie a passé et d'autres choses se sont créées, mais dans l'instant de l'amour c'est douloureux parce que notre projet n'a pas abouti, mais c'est aussi douloureux parce qu'on ne se sent pas aimé. Et en temps de confinement où on manque de relations avec les autres, de tendresse en général, affirmée physiquement dans nos présences entre amis, entre collègues, etc., le sentiment d'un désamour est certainement pour les gens les plus fragiles, bien sûr, d'autres en feront une solidité à affirmer plus encore, mais sinon ce peut être particulièrement douloureux. Donc soyons vigilants quand on sait que ce sont des temps. On peut aussi se dire qu'avec le confinement, eh bien la personne que l'on va quitter va avoir mesuré que dans ce temps d'absence, finalement elle s'en sortait très bien sans moi et qu'elle pourra encore s'en sortir sans moi une fois que nous aurons rompu. Donc on peut aussi profiter du confinement pour cet apprentissage.
Catherine, il se peut aussi que ce jeune homme de l'autre côté, parce que là on n'a que le point de vue de Sarah, mais peut-être que lui il est fou amoureux d'elle et qu'elle va complètement le détruire avec cette annonce. Est-ce qu'elle ne peut pas peut-être y aller un peu doucement, parce qu'elle n'est pas obligée de lui dire directement par texto comme ça lapidaire, c'est fini. Est-ce qu'elle ne peut pas lui envoyer des signes pour le préparer tranquillement? Il est peut-être sensible ce garçon, on ne sait pas, on ne sait jamais.
J'ose espérer qu'il est sensible, sinon la relation n'avait pas vraiment de sens. Je pense qu'il y a de toute façon un partage de sensibilité. L'erreur est souvent que l'on se dit plus amoureux les uns et les autres que nous le sommes vraiment, ou au contraire, on ne se dit pas qu'on est amoureux alors qu'on l'est vraiment. C'est toujours cette difficulté que nous avons à faire face à nos sentiments. De toute façon, et là, c'est pas l'histoire du confinement, c'est l'histoire des ruptures. Rompre, c'est toujours, si on a un peu, un tant soit peu aimé l'autre, c'est toujours risqué parce qu'on a peur de blesser l'autre, ou alors on est très égoïste et on omet cette éventualité, et auquel cas bien sûr qu'il faut toujours faire attention aux signaux que l'on envoie, c'est-à-dire ne pas laisser penser à « oh oui tu me manques, oh oui tu me manques, quelle horreur ce confinement », alors qu'en réalité il n'en est pas, puisque de toute façon c'est toujours reculer pour mieux sauter, parce qu'il faudra sauter dans ce face-à-face où l'autre tout d'un coup vous vient à corps perdu vers vous alors que vous n'êtes pas prêt à l'accueillir. Donc en effet, tout en douceur, et tout en sincérité.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve donc demain, je viens de vous le dire, avec nos experts. Et envoyez-nous vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. À présent, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de Mathieu Noël et son équipé sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, restez avec nous. L'équipé sauvage en ce 1er avril vous réserve certainement bien des surprises. Nos journalistes seront-ils farceurs? Peut-être. En tout cas, notre invitée, la grande Sophie, est extrêmement farceuse puisque là, au standard, elle s'est présentée comme Sylvie Vartan. Ça vous donne un peu le ton de l'émission du jour.
Et oui, ça promet, effectivement. On sera à l'écoute. Je vous souhaite une bonne émission. Et vous, restez sur Europe 1. Hein.